Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h28, vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Marie-Suzanne Lequeo. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes l'une des plus hautes magistrates de France. Vous êtes aujourd'hui procureur général près la cour d'appel de Paris. Beaucoup, beaucoup de questions à vous poser ce matin. La première, est-ce qu'on peut encore avoir confiance dans la justice de notre pays?
Je vais répondre à votre question, mais d'abord... Je voudrais avoir une pensée pour les parents de Liana et pour les proches de sa famille. Je suis, comme tous les Français, bouleversée par ce drame, mais je le suis également en tant que magistrat, parce que j'ai choisi ce métier d'engagement pour protéger les plus vulnérables, dont les enfants. Et je comprends d'ailleurs la colère des Français, qui l'ont d'ailleurs manifestée de manière assez inédite par des manifestations devant
les tribunaux de France,
devant les tribunaux et le ministère de la Justice. Je comprends cette exaspération et je comprends qu'ils attendent des explications sur les circonstances qui ont conduit à ce drame, à la mort de cet enfant de 11 ans.
Y a-t-il des explications? C'est-à-dire, y a-t-il au fond des réponses à apporter? Ou est-ce que c'est tout un système qui s'est globalement effondré?
Nous devons la vérité aux Français et nous devons la regarder en face. Le garde des Sceaux a mandaté une inspection. Le rapport est attendu dans les 15 jours. Nous en tirerons ensuite les enseignements. Mais je pense que si nous voulons recréer le lien de confiance qui est très altéré entre les Français et la justice, nous devons effectivement rendre des comptes aux Français sur la manière dont ce dossier a été traité.
Quand vous dites nous devons rendre des comptes, ça veut dire que vous considérez qu'il y a peut-être des faillites du système, qu'il y a peut-être des responsabilités individuelles, que personne ne doit se défausser?
Il y a effectivement à regarder s'il y a des défaillances individuelles et s'il y a aussi des défaillances collectives. C'est-à-dire que dans ces affaires, on constate que très souvent, il y a à la fois les acteurs, pas simplement les magistrats, tous ceux qui ont concouru au traitement de ce dossier, et il y a également donc le contexte dans lequel ces affaires sont traitées et qui renvoie notamment à la question des moyens.
Il y a une gravité dans vos mots dès le début de cet entretien, je le sens bien. Bien sûr qu'on aura, comme vous le dites, les conclusions de l'enquête administrative, mais il y a déjà beaucoup d'éléments qu'on a. Si on ne prend que quelques-unes des défaillances, plainte, évidemment, de la petite Rosa est au cœur de ce vertige qui nous prend une petite fille qui porte plainte, qui a le courage de parler, qui y va, qui parle d'une dizaine de viols, qui est auscultée par des médecins qui confirment ses dires. Une mère qui n'est informée de rien, qui va tous les lundis frapper à la porte des enquêteurs, qui la rabroue et qui lui disent « lâchez-nous ». Tout cela, et aujourd'hui, elle dit « si la plainte avait été prise au sérieux, sans doute, Liana n'aurait pas disparu ». Est-ce que vous pensez comme elle ?
Ce que je pense, c'est qu'il est important d'avoir également les explications, ce sera le rôle de l'inspection, d'avoir les explications de ceux qui ont traité concrètement cette affaire, que ce soit donc les magistrats du parquet, Toulouse-Auch, ou que ce soit les gendarmes qui se sont vus confier ce dossier. Il est important aussi d'entendre les explications des personnes concernées sur le pourquoi ont-ils traité ce dossier de cette manière-là. Et puis après, il faudra s'interroger beaucoup plus largement, passer de ce cas singulier au général, sur nos pratiques professionnelles dans le traitement des affaires de viol.
Y a-t-il aujourd'hui, avant même le drame Liana, est-ce qu'au quotidien, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, si régulièrement, depuis des semaines, des mois, vous vous disiez, on n'a pas les moyens, on ne va pas y arriver, est-ce que c'est un problème de moyens? Est-ce qu'il y a un problème de moyens?
Il y a un problème de moyens, ça n'est pas nouveau quand même dans la magistrature. Rappelez-vous les propos de cet ancien garde des Sceaux qui a parlé de clochardisation de la justice. Mais depuis, effectivement, la représentation nationale a fait des efforts, a voté donc des budgets qui ont permis l'augmentation, ne serait-ce que de 1500 magistrats supplémentaires sur le quinquennal. Et d'ailleurs, cette trajectoire d'augmentation des effectifs de magistrats doit se poursuivre dans les années à venir. Je pense que la représentation nationale, en tout cas les politiques que j'ai entendues sur les plateaux de télé, en ont pleinement conscience. Donc effectivement, il y a un problème de moyens. Mais ce matin, moi, c'est pas tellement la question des moyens qui ne vont pas arriver demain. Ma question, c'est comment, dans la situation dans laquelle je suis, je fais pour m'assurer qu'un tel drame ne puisse pas se reproduire. C'est ça mon urgence.
Vous faites comment ?
Alors, d'abord, nous allons faire ce que nous a demandé le garde des Sceaux. Alors, je suis à la cour d'appel de Paris.
J'ai revoir les fameuses 70 000 plaintes, dit-il, ne partirez pas en vacances sans que ce soit fait ?
Alors, pour la cour d'appel de Paris, nous avons déjà immédiatement procédé à un recensement et nous avons environ, pour l'ensemble des 9 parquets qui sont placés sous ma responsabilité, j'ai environ 7000 procédures à examiner. Voilà.
Y arriverez-vous avant le 14 juillet, comme le demande le ministre ?
C'est pas la question d'y arriver ou pas. C'est une obligation que nous avons vis-à-vis des Français. Les parquets, donc les procureurs de la République, qui sont des gens très conscients de leurs responsabilités, vont organiser leurs équipes pour que ces procédures soient examinées. Mais, j'ai demandé aussi d'aller plus loin que ce que le garde nous a demandé de faire. Nous allons procéder non seulement au recensement des affaires que nous connaissons déjà, c'est-à-dire qui sont arrivées chez nous et qui sont reparties avec des instructions auprès des services d'enquête. Nous allons examiner aussi toutes les affaires dont nous ne sommes pas informés, c'est-à-dire la plainte qui vient d'être déposée, voilà, et qui n'a pas encore commencé à être traitée par les services de police et de gendarmerie. Ça aussi, nous allons le faire. Mais nous allons aussi regarder ce qui se passe dans la maison justice, chez nous. Est-ce que toutes les procédures qui nous ont été transmises sont enregistrées rapidement par un service qui s'appelle le bureau d'ordre avant d'être données aux magistrats ? Est-ce que les magistrats qui ont ces procédures les regardent en priorité, avec beaucoup de diligence et de rapidité ? On va aussi s'en assurer. Et puis je vais aller un tout petit peu plus loin encore. Je vais regarder le bout de la chaîne pour bien m'assurer que toutes les personnes qui ont été condamnées pour des faits d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle, bien que toutes ces personnes-là, leurs condamnations sont effectivement mises à exécution.
Que les peines sont appliquées.
Oui, et que notamment elles sont inscrites au casier judiciaire. Voilà.
Si vous dites ça, c'est quand même que vous avez un doute.
Ce n'est pas que j'ai un doute, je veux faire des vérifications. Je veux faire des vérifications, mais qui étaient déjà, si vous voulez, en réalité faites.
Mais dont vous sentez plus particulièrement l'urgence aujourd'hui. Ça pointe la question des peines, ça pointe la question de la responsabilité, de l'écoute des enfants, et aussi de l'efficacité. Au fond, c'est cette question-là, l'efficacité. Vous avez évoqué à l'instant la question de savoir s'ils sont, oui ou non, bien dans les fichiers. Moi, j'étais extrêmement frappée, j'en parle depuis deux jours, mais parce que ça m'a saisi d'effroi. J'interrogeais une des responsables du syndicat supérieur de la magistrature il y a trois jours sur le fait que cet homme, Jérôme Barella, était pourtant inscrit dans le fameux TAJ, le fichier. Mmh. Et elle me répondait, non, mais attendez, nous, c'est pas le TAJ, c'est Cassiopée. Alors moi, je découvrais qu'il y avait deux différents logiciels, un pour la police, un pour la justice. Et puis ensuite, elle me disait, mais de toute façon, Cassiopée, il marche un jour sur deux, et quand il marche, il n'est mis à jour que tous les 6 mois. Donc il n'est pas mis à jour en temps réel. Pardon, j'ai halluciné. Je me disais, on est en 2026, et on a des outils qui ne sont pas du tout à la hauteur.
Vous posez effectivement la question de ce que nous allons faire, non pas dans l'urgence, mais sur le long terme. Parce qu'il y a des choses qui sont dans notre main aujourd'hui de magistrats que nous pouvons faire, et nous le faisons donc immédiatement. Et puis il y a des choses qui vont nécessiter du temps. Et notamment la question que vous soulignez à l'instant, qui est la question des fichiers, de la mise à jour de ces fichiers, de l'interconnexion aussi de ces fichiers, pour que lorsqu'un magistrat aujourd'hui est au téléphone, qu'un enquêteur lui parle d'une personne mise en cause dans une affaire d'agression sexuelle, il puisse immédiatement donc voir si cette personne
taper le a nom, des, j'ai presque envie de dire dans un ordinateur quelque part et que
oui a des procédures ailleurs que sur son ressort de compétence a déjà été condamné déjà dans le TAJ voilà c'est et ça implique effectivement du travail sur le long terme.
Est-ce que le problème c'est des moyens ou est-ce que le problème c'est aussi une philosophie, une approche de la parole des enfants? Marie-Suzanne Lequeau, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes aujourd'hui procureur général près la Cour d'appel de Paris. Mais vous avez été procureur de la République à Auxerre, vous avez été à Évry, vous avez été à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il y avait au fond, il y a eu un moment d'électrochoc dans la société française, c'était Outreau. On a presque l'impression que ça avait donné le résultat inverse, c'était que peut-être on avait trop écouté les enfants, que ça nous avait conduit à une forme de diatribe populaire. Est-ce que ça a en quelque sorte intimidé, je vous pose la question d'Outreau, comme un moment qui aurait peut-être en quelque sorte intimider ensuite les magistrats à aller vers l'écoute des enfants. Est-ce que vous avez cette affaire souvent encore en tête?
Dans mon parcours professionnel, j'ai d'abord été marquée par l'affaire Émile Louis. Je suis procureur de la République à Auxerre. Émile Louis, c'est un grand prédateur sexuel qui s'en prend à des jeunes femmes handicapées, qui viole et qui tue. À l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas cette caisse de résonance, on en parlera. Pas tellement. Après, il y aura ce qui a été pour nous une affaire terrible, qui est effectivement l'affaire d'Outreau. Ça a été, on a été marqué, ma génération de magistrats a été marquée au fer rouge par ce dossier. Et on en a tiré un certain nombre d'enseignements, parce qu'on a beaucoup progressé dans le recueil de la parole des enfants. On a créé des salles qu'on appelait Mélanie, donc avec des gens, des enquêteurs spécialisés dans l'écoute.
L'écoute des enfants.
On a suivi nous-mêmes des formations dans le décryptage de la parole des enfants. On s'est perfectionné dans les enquêtes, dans les actes d'enquête à mener. Tout ça, nous l'avons fait. Et personne n'a oublié l'affaire d'Outreau. C'est encore un marqueur terrible pour un certain nombre de magistrats. J'ai finalement regardé de très près ce qui s'était passé dans cette affaire, puisque j'étais à l'inspection générale de la justice et j'ai fait partie de cette mission. Et ensuite, j'ai été nommée procureure générale à Douai. Et lorsque je suis allée à Boulogne-sur-Mer, qui était une juridiction dans mon ressort de compétences, les gens parlaient encore que de cette affaire. On a tous été marqués au fer rouge par ça. Et la génération... Je suis certaine que cette jeune génération de magistrats là, qui débute, va être marquée également par l'affaire Liana.
Marie-Suzanne Lequeau, la question des sanctions, on parlait de la question des sanctions des magistrats, mais la question du pédocriminel. Est-ce qu'on est aussi face à un des derniers tabous? Je recevais ce matin Jérôme Fourquet, qui analyse la société française, et qui disait, on est peut-être derrière le dernier tabou de la société française, les agressions sexuelles contre les enfants, l'inceste, la famille, les enfants, la protection des plus vulnérables. Mais il rappelait aussi l'ampleur inouïe. On parle de 3 enfants par classe. Mmh. Est-ce que vous imaginiez, vous, et est-ce que face à cette ampleur énorme, ou peut-être les Français aussi doivent se regarder en face en se disant, au fond, ça veut dire qu'il y a des pédocriminels partout. Est-ce qu'on a les moyens d'y faire face aussi à cette question-là, à l'ampleur?
On découvre effectivement l'ampleur du phénomène. Enfin, les Français, avec un tel chiffre, effectivement, se disent que c'est un vrai problème de société. Mais comment en est-on arrivé là? Parce que vous parlez de pédocriminels, c'est la figure extérieure à la famille. Mais nous aussi, on a beaucoup d'affaires où l'agresseur est dans la famille. Le père, le frère, l'ami de la famille. Que c'est la cellule familiale qui dysfonctionne au point d'en arriver à la commission de crimes sur des enfants. Voilà. C'est ça la réalité que nous traitons depuis des années. Les magistrats qui sont tous les jours au téléphone ou qui lisent des procédures, c'est à ça qu'ils sont confrontés. Eux, ils ne découvrent pas cette réalité.
Avec cette question, qui est aussi désormais la question de la peine, et au fond de la rédemption. C'est-à-dire, le pédocriminel peut-il, une fois qu'il a purgé sa peine, se réinsérer dans la société ? Certains pays, l'Angleterre, la Pologne, les États-Unis, ont décidé de rendre public les noms des pédocriminels, alors pas forcément de manière générale, mais qu'on puisse aller demander si dans l'école de son enfant, par exemple, en contact avec son enfant, il y a un pédocriminel condamné. Comment vous réagissez à ça ?
C'est d'abord une question politique. C'est-à-dire, c'est une vision de la société que d'afficher le nom de, effectivement, de gens qui ont été condamnés définitivement, avec les risques que cela, d'ailleurs, comporte pour eux aussi, en termes de
d'éventuels lynchages ou...
pour eux et aussi pour leur famille. Moi, j'ose croire encore que une peine prononcée dans ce type d'affaires peut-être changer la trajectoire
de ces
criminels.
Mais peut-on prendre le risque ? Je vous pose cette question parce que c'est au fond où est-ce qu'on met le curseur aussi dans la protection de l'enfant. Lorsque Gérald Darmanin dit « ils sont incurables ».
Je ne peux pas répondre sur le fait qu'ils soient incurables ou pas, c'est une question qui ne relève pas de mon champ
mais
de compétences.
Ça tire ensuite la question de la perpétuité réelle qui a été évoquée par Sébastien Lecornu.
Écoutez, c'est à la représentation nationale de se prononcer. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que les magistrats, eux, ils appliquent ce que les députés et les sénateurs ont voté comme loi. Et c'est eux qui ont un projet politique pour la justice dans ce pays.
Hier, Gérald Darmanin a annoncé retirer le plaidécoupable criminel de son projet de loi de réforme de la justice. Comment vous réagissez ?
Je le regrette beaucoup.
Ah bon ?
Je regrette, je le dis parce que j'étais en faveur de l'instauration de ce plaidécoupable en matière criminelle. Je pense que les garanties qui avaient été apportées donc, pour notamment les victimes dans la discussion sur cette peine étaient de nature à pouvoir avoir un procès donc, équilibré. La représentation nationale n'en a pas été convaincue et donc ce ne sera pas voté aujourd'hui. Mais j'espère, je le dis aussi, que nous pourrons rediscuter de cette question dans un autre temps.
Comme une sorte de porte de sortie aussi de l'embolie de la justice ?
Oui, mais l'embolie de la justice, c'est pas la question, c'est une question centrale, mais c'est pas au détriment non plus du droit des accusés, des victimes.
Est-ce
c'est pas rendre la justice n'importe comment.
Est-ce que certaines considérations rentrent en compte quand vous prononcez une décision ? Est-ce que, par exemple, le fait de savoir s'il reste des places de prison ou pas, en l'occurrence la plupart du temps, ça rentre en ligne de compte ? Est-ce que quand vous prononcez une peine, vous interdisez parfois de prononcer une peine de prison alors que vous estimez que ce serait nécessaire parce que vous savez que derrière il n'y a pas de place.
Je ne peux pas répondre à la place de mes collègues du siège, je sais qui eux prononcent une peine. Moi, je ne fais que demander, proposer quelque chose. Et je peux vous dire que si les faits sont très graves, tout en ayant quand même en tête la surpopulation carcérale à laquelle nous sommes confrontés dans des affaires très graves, le fait de la question de la surpopulation carcérale n'est pas un élément qui nous guide dans le choix d'une peine dès lors que les faits sont notamment des faits d'atteinte aux personnes.
Dans moins d'un mois, décision dans le procès en appel de Marine Le Pen et du RN. C'est votre cour qui rendra cette décision. Est-ce que les débats se poursuivent ? Est-ce que c'est figé ? Est-ce que c'est d'ailleurs décidé ? Est-ce que tout est ouvert ?
C'est terminé, le procès est terminé. Désormais, il appartient au magistrat qui composait la cour de rendre leur décision. Moi, j'ai fait valoir au nom de la société ce que j'estimais demander dans cette affaire. Maintenant, c'est au magistrat du siège d'être convaincu ou pas. Après avoir entendu donc évidemment les avocats tant des parties civiles d'ailleurs que des prévenus, c'est à eux de décider quelle est la peine qui leur paraît appropriée s'ils sont déclarés coupables.
Et leur décision n'est pas politique ?
Leur décision n'est pas politique, elle a des conséquences politiques, ça c'est évident, mais elle n'est pas politique.
Merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Marie-Suzanne Lequeau, je rappelle que vous êtes une des plus hautes magistrates de France aujourd'hui, procureure générale près la Cour d'appel de Paris. Vous êtes bien sur RMC BFM TV.